Nous sommes le mercredi 1er juillet. Bienvenue pour ce nouveau journal sur KBS World Radio, présenté par Anne Le Flau et moi-même Wu Haiyang.
Au sommaire de cette édition, la Corée du Sud a une nouvelle première ministre. Elle s'appelle Han Sang-soo et elle promet d'accélérer la mise en œuvre des politiques publiques. Les exportations mensuelles de la Corée du Sud ont atteint un nouveau record en juin, en dépassant pour la première fois la barre des 100 milliards de dollars. Et puis, soldats nord-coréens capturés par l'Ukraine, Séoul et Kiev discutent de leur rapatriement.
La nouvelle première ministre, Han Sang-soo, qui a reçu ce matin sa lettre de nomination des mains du président de la République, Lee Jae-myung, a déclaré aux journalistes que la Corée du Sud est en train de passer du statut de pays qui rattrapait les grands bouleversements à celui de pays qui les impulse.
Elle a ajouté que les pouvoirs publics s'adapteront à cette nouvelle réalité en agissant avec davantage de rapidité afin que les politiques nécessaires puissent être mises en œuvre en temps voulu et qu'elle ferait de son mieux pour remplir les responsabilités qui lui sont confiées.
Celle qui succède à Kim Min-seok a aussi souligné que les investissements dans l'intelligence artificielle et les industries de pointe seront menés avec encore plus d'audace et que le gouvernement s'emploiera également à assouplir les réglementations susceptibles de freiner l'innovation.
Tout à fait. Elle a également assuré qu'elle veillerait à ce que les résultats de ses politiques se traduisent concrètement dans la vie des citoyens et ouvrent aux jeunes des perspectives de croissance et d'essor. Enfin, la chef du gouvernement a indiqué vouloir privilégier des mesures concrètes, directement perceptibles par les citoyens, en accélérant le déploiement de projets ayant un impact sur leur quotidien.
Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas Han Sang-soo, qui est-elle, Anne?
C'est une ancienne PDG de Naver, le premier portail Internet du pays, qui a déjà occupé le poste de ministre des PME et des Start-up sous l'administration Lee Jae-myung. Elle devient ainsi la deuxième femme à accéder au poste de chef de gouvernement après Han Myung-suk en 2006.
Woo Se-hoon, quant à lui, a officiellement entamé aujourd'hui son cinquième mandat de maire de Séoul.
Dans un discours prononcé lors de la cérémonie organisée à cette occasion, il a affirmé sa volonté de faire de la capitale une ville qui donne envie d'y vivre toute sa vie. Il a également appelé à juger son action uniquement à l'aune de la qualité de vie des Séouliens.
Le maire de la capitale a ensuite présenté sa vision.
Il a d'abord évoqué la question de la jeunesse, confrontée à de nombreuses difficultés en matière notamment d'emploi et de logement, déclarant vouloir lui redonner de l'espoir. Il a ensuite promis de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte face aux avancées technologiques, avant d'annoncer son intention de garantir à 500 000 jeunes un droit fondamental d'accès à l'intelligence artificielle.
Woo Se-hoon a également souligné l'importance qu'il accordait à la santé des habitants.
Il s'est notamment engagé à aménager des espaces leur permettant de marcher, de courir et de pratiquer une activité physique à moins de 10 minutes à pied de chez eux.
Et pour clore ce chapitre, Lee Jae-myung a invité aujourd'hui l'ancien président Moon Jae-in à la Maison Bleue pour un déjeuner.
Dans son discours d'ouverture, Lee Jae-myung a affirmé que son gouvernement poursuivrait l'action des précédentes administrations démocrates en préservant leur acquis tout en y apportant de nouvelles avancées.
Moon Jae-in a appelé son successeur à exercer un leadership plus fort afin de devenir le président de tous les citoyens, soulignant que l'unité nationale constituait l'un des principaux défis de son mandat.
Il a également estimé que cette unité devait d'abord passer par la cohésion au sein du parti au pouvoir avant d'assurer qu'il apporterait tout son soutien à la réussite du gouvernement actuel.
Selon la présidence, un repas estival à base de poissons et de fruits de mer a été préparé en tenant compte des préférences culinaires de l'ancien chef de l'État.
Le menu comprenait également un bibimbap présenté comme un plat symbolisant la concorde et l'unité, des valeurs que les deux dirigeants ont toujours mises en avant.
Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
Brièvement, une bonne nouvelle pour l'économie sud-coréenne. Les exportations mensuelles de la Corée du Sud ont atteint un nouveau record en juin, en dépassant pour la première fois la barre des 100 milliards de dollars.
Selon des données publiées ce mercredi par le ministère du Commerce, de l'Industrie et des Ressources, avec un bond de 70,9% en glissement annuel, elles ont atteint les 102,25 milliards de dollars dans un contexte de forte hausse de la demande mondiale en semi-conducteurs.
Le gouvernement a tenu ce matin un point de presse consacré à la situation des navires sud-coréens bloqués dans le détroit d'Ormuz ainsi que de leurs membres d'équipage.
Le vice-ministre des Océans et de la Pêche, Nam Jeon, a indiqué que la plupart de ces bâtiments étaient parvenus à quitter cette voie maritime, tout en promettant de garantir la sécurité de ceux restant sur place jusqu'à leur départ de la zone.
Dans le détail, au moment du déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, à la fin du mois de février, un total de 146 marins sud-coréens à bord de 26 navires sud-coréens étaient immobilisés dans le détroit.
Parmi eux, un pétrolier a réussi à franchir le détroit pour la première fois le 20 mai, avant d'arriver au port d'Ulsan 3 semaines plus tard. Il a été suivi par un transporteur de gaz naturel liquéfié qui, lui, a pu sortir le 10 juin. Les 24 autres navires, restés immobilisés à l'intérieur du détroit pendant près de 4 mois, ont établi leur plan d'évacuation après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, et notamment l'annonce par Téhéran le 19 juin des procédures de demande d'autorisation de transit dans le détroit d'Ormuz. Ainsi, du 22 au 30 juin, 22 d'entre eux ont pu reprendre la route.
Actuellement, 7 ressortissants sud-coréens se trouvent à bord de 2 derniers navires sud-coréens, dont le HMM Namu, endommagé lors d'une attaque en mai, et 28 autres sur des bâtiments étrangers.
Le vice-ministre des Océans et de la Pêche a précisé que ce dernier était toujours en réparation sur place, ajoutant qu'il devrait pouvoir reprendre la mer à partir de la mi-juillet.
Et nous enchaînons avec le séisme au Venezuela. Lors d'un point de presse mardi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que le gouvernement envisageait d'y déployer une équipe de secours.
Selon Park Hill, elle pourrait être composée principalement de personnel médical plutôt que de secouristes, en raison notamment de la distance géographique. Séoul suit toutefois de près l'évolution de la situation après que le ministre vénézuélien de la Santé a demandé dimanche au pays de s'abstenir d'envoyer des équipes médicales, les soins médicaux d'urgence destinés aux survivants du séisme étant pratiquement terminés.
Et pour refermer ce chapitre, le ministre des Affaires étrangères Cho Yeon et son homologue ukrainien André Sivia se sont rencontrés mardi à Séoul afin de discuter du sort des 2 prisonniers de guerre nord-coréens capturés par l'Ukraine alors qu'ils combattaient aux côtés des forces russes dans la région de Koursk. Les 2 militaires ont déjà exprimé leur souhait de faire défection et de s'installer en Corée du Sud.
Le porte-parole du ministère, Park Hill, a déclaré que les 2 parties poursuivaient des discussions constructives et s'accordaient sur une résolution conformément au droit international et aux principes humanitaires. Selon la constitution sud-coréenne, les Nord-Coréens sont considérés comme des ressortissants sud-coréens et Séoul s'est déclaré disposé à accueillir les 2 soldats tout en leur fournissant la protection et le soutien nécessaires.
Et quels sont les autres sujets qui ont été à l'ordre du jour ?
La coopération militaire entre Moscou et Pyongyang, le soutien apporté par Séoul à Kiev, ainsi que la coopération bilatérale en matière d'efforts de reconstruction auraient également été évoqués par les ministres.
Et pour terminer, le service des postes du ministère des Sciences et des TIC a annoncé aujourd'hui que le tarif du courrier ordinaire national pour une lettre standard de 25 grammes passerait de 430 à 500 won, soit 30 centimes d'euros.
Il s'agit de la première hausse des tarifs postaux depuis 2021. L'organisme a expliqué que cette augmentation était une mesure inévitable pour maintenir un service stable dont le déficit s'est aggravé sous l'effet du recul de l'usage du courrier lié à la transition numérique. Il a toutefois souligné que malgré ce relèvement, les tarifs sud-coréens restaient faibles par rapport à ceux des pays de l'OCDE.
C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, Séoul au jour le jour avec Kojong San.